Merci Henri pour cette présidence, merci pour ce dernier échange. Et je vous propose, je pense que vous allez être étonné, de continuer l'épître de Jude. On n'a pas fini, hein. Peut-être la semaine prochaine on terminera. Mais je vous propose de lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Il y a beaucoup à dire, hein, donc je vais quand même limiter. Vous irez vous-même réétudier et relire cette épître. Et voir, il y a des choses qui sont assez intéressantes et des choses intrigantes que je ne vais pas développer. Et des choses à rechercher. Mais bon, voilà. Je vous lance. Moi, je vais développer une partie. Jude 8 à 16. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. » Jusque-là, la parole du Seigneur, nous voulons encore nous mettre devant ce texte, peut-être pas facile, peut-être qui nous choque, peut-être qui nous tracasse, peut-être qui nous perturbe. Seigneur, aide-nous à être à ton écoute, que ce soit ta parole, ton message, qui passe pour nos cœurs. Touche nos cœurs à salut. Ferme les oreilles de notre corps pour faire taire les bruits du dehors, mais que nous puissions juste entendre ta voix pour voir comme toi tu vois. Au nom de Jésus. Amen. Quelle description claire, nette et précise des gens qui se sont infiltrés parmi les chrétiens. Ça, c'est marqué dans les versets un peu plus avant, dans l'épître de Jude. Et ça, tout ça, à l'époque de Jude. Et les chrétiens qu'il nomme, comment ? Ceux qui sont appelés. Aimés et gardés. C'est nous aussi. Hein. Appelés, aimés et gardés. Mais quelles caractéristiques de détail des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Quelle description horrible. Sur le plan moral, ils souillent leur corps entraînés par leur rêverie et leur mauvais désir. Verset 16. Ils se livrent à la débauche et à des pratiques contre nature, comme nous avons vu la semaine dernière. Ils sont ravalés au rang des bêtes privées de raison, suivant leurs instincts, et se détruisent eux-mêmes. De plus, ils sont avides de gain, gourmands, égoïstes, hypocrites, trompeurs, éternellement mécontents et flatteurs. Mais sur le plan religieux, qu'apparemment non plus, ils n'ont aucun respect de Dieu. On a déjà vu. Ils renient Jésus-Christ comme maître et seigneur. Ils rejettent l'autorité de Dieu et de Jésus. Ils n'ont pas l'esprit. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Ils insultent les êtres glorieux du ciel et tout ce qu'ils ne connaissent pas. Il y en a qui jurent, ils ne savent même pas ce qu'ils connaissent. Ils sont moqueurs et fauteurs de troubles. Que dire ? C'est atroce. je sais pas, mais vous connaissez beaucoup de gens qui ramassent toutes ces qualités. Nous parlons du mauvais temps actuel, ou du temps mauvais pour l'instant, mais c'était quand même pas mieux au temps de Jude, quand même. C'est quand même pas un écrit de maintenant. C'est un écrit du 1er siècle. C'est quand même terrible. Mais remarquez que les perversions morales et religieuses sont entremêlées. Comme pour dire que c'est quand même intimement lié. Et lequel de ces deux aspects moraux ou religieux entraîne l'autre? Qui sait? Si je suis immoral, suis-je automatiquement irreligieux? Et vice-versa. Mais j'ai entendu pourtant des gens qui allaient à l'église déclarer « Oh, la semaine, je fais ce que je veux. Le samedi, je passe à la cuve des reins et le dimanche, je vais au culte. » Je rappelle que la cuve des reins, c'était là où se lavaient et faisaient les ablutions des grands prêtres au tabernacle et dans le temple de Jérusalem. Pas de souci. On fait ce qu'on veut, on se purifie et dimanche, on va au culte. Bizarre. C'est pas parce que je vais à l'église que je dois être parfait. Je suis quand même pas parfait. Bon, un petit mensonge pour sortir d'une situation scabreuse. Sans jamais tuer personne. Et selon notre texte de Jude, la perversion de la notion de grâce décrite au verset 7 a certainement entraîné à laisser aller. On ne croit plus à la grâce. C'est pas possible. On ne croit plus au sacrifice. On ne peut pas se sacrifier pour un autre, que j'ai déjà dit. Verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes. Il s'est glissé parmi vous, hein. Ils sont pas deux, ils sont dedans. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Seigneur en dissolution et qui renient notre Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je me suis reposé la question, changer la grâce en dissolution. Dissolution, drôle de mot. Ben. Mais dans d'autres textes et dans la version originale, c'est débauche. Donc dissolution, débauche. Et la traduction en français courant traduise quelque chose d'un peu plus clair. Ils déforment le sens de la grâce pour justifier leur vie immorale, leurs actions honteuses. On fait ce qu'on veut et puis après on trouve un texte biblique. Hein. Ça, quand même le contraire, il me semble qu'on doit faire. Mais enfin, ben, action honteuse, ben, on justifie. Hein, bon. On fait une action honteuse, ben, laissons passer. Puisque le Dieu de grâce pardonne tout, aime tout le monde, il va passer sur tout, il va tout effacer. Paul dénoncera quand même par des questions. Romains 6, 1, que dirions-nous? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? On va pécher comme ça et on aura plus de grâce. Si on lit le texte après, Romains 5, 15, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? On a pu dire, l'Ancien Testament, la loi, fini ça. On est sous la grâce. Tout est bien, tout est parfait. On fait ce qu'on veut. Il ne faut même pas oublier que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens 8, 16, par le moyen de la foi. Et cela, vous savez, c'est le verset, ça vient de vous, c'est un don de Dieu. Renier la grâce, c'est renier le don de Dieu. Jude avait déjà donné des exemples du peuple sorti du pays d'Égypte, des anges déchus et de Sodome et Gomorre, nous avons vu la semaine dernière. Pour ceux qui ne m'ont pas entendu, vous pouvez aller toujours sur le site. Toutes les prédications sont là. On a déjà vu ça. Et malgré cela, ça c'est le texte que nous avons lu, premier verset, malgré cela. Donc malgré cela, malgré tout ce qu'il a déjà dit avant, sept versets avant, malgré cela, ces hommes n'ont pas changé. Malgré ces exemples, malgré les exemples du comportement, les gens n'ont pas changé. Ils n'ont pas pris conscience de leur état de débauche. Ils sont toujours les mêmes. Jude va donc faire une description plus précise que nous avons résumée. Il va donner trois nouveaux exemples. Il va donner d'autres exemples, je ne vais prendre que trois. Sinon, on va vraiment allonger. Et je vous avais dit que dans le premier partage, que vous pouvez aussi sur le site, dans notre premier partage sur Jude, qu'elle était remplie de triades. Triade, c'est-à-dire trois mots ou trois bouts de phrases qui ont un même rapport. Quoi. Et ici, il y a une triade de références de personnages de l'Ancien Testament que Jude nous propose. Vous avez sûrement remarqué, Caïn, Balaam et Corée. Et je vous propose d'approfondir un tout petit peu ces cas-là. Caïn, on sait très bien qui c'est, le frère d'Abel, son sacrifice a été refusé par Dieu. Mais depuis le péché d'Adam, où Dieu a tué un animal pour donner des vêtements à l'homme, la voie du pardon passe par un sacrifice d'un animal. Caïn, lui, il arrive avec les fruits de la terre, les fruits de son propre travail, le fruit de ses propres œuvres. Abel lui offre un sacrifice par la foi. Et c'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit, Hébreux 11:4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par là qu'on parle encore de lui, quoique mort. La haine de Caïn va le conduire au meurtre, par égoïsme. Quand Dieu cherche après, il est où ton frère? Et lui dit, oh, je le gardien de mon frère. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien où il est. La voix de Caïn est la voix qui n'a ni foi, selon Hébreu, que nous venons de lire, ni d'amour fraternel, selon 1 Jean, que je vous lis, 1 Jean 3:11, car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Ne pas ressembler à Caïn qui est du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Pas d'amour, pas de foi. On mène au meurtre. La semaine passée, je vous ai parlé d'une fameuse secte du début de l'ère chrétienne, les gnostiques. Selon Épiphane, un père de l'Église, que je n'ai pas connu, il est trop vieux, les gnostiques vénéraient Caïn. Et les successeurs, comme champions du droit, et ses membres prétendaient s'apparenter à lui. Donc les gnostiques étaient descendants de Caïn. Et ils adulaient les hommes de Sodome, d'Ésaü et Corée. Tiens donc, les exemples. Vous voyez bien que Jude avait de sérieux arguments pour parler de cette manière de son époque. Et dans la tradition juive, Caïn représentait l'incrédulité. L'incrédulité qui défie Dieu et méprise les hommes. Après avoir tué son frère Abel, il devint fugitif. Il a dû fuir. Il essaie de couvrir sa misère en faisant une ville et une civilisation. Vous pouvez aller voir le texte, hein. Genèse 4, 19 et suivant. Genèse 4, 19 suivant. On va vérifier. Il a réussi tout ce qu'un homme pouvait avoir. Il a créé une ville, une civilisation, sauf qu'il a raté sa rencontre avec Dieu. On peut tout avoir sur la terre, mais rater la rencontre avec Dieu, ça peut mener au meurtre. Deuxièmement, il y a notre Balaam, qu'on retrouve dans Nombre, son histoire complète dans Nombre 22-24. Il est parfois difficile de cerner un peu la personnalité de Balaam. Il se proclame lui-même comme un grand prophète. Et je vais le laisser parler, parce que je ne prendrai pas à sa place. Je vous lis donc le verset 15 de Nombre 24. Balaam prononça cet oracle et dit « Parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. » Parole de Balaam. D'autres y diraient « Parole de Dieu ». Non, parole d'homme. Effectivement, selon lui, là, tout un grand homme, un grand prophète, c'est lui. Lui qui connaît tout, il voit tout. Il a l'œil ouvert. Mais quand le roi lui propose de le rémunérer, il hésite un petit peu, il hésite, mais pas trop longtemps, quoi. Hein, ok, si tu me payes, on va prendre. Et sous le couvert d'une déclaration de Dieu, il indiquera au roi Balak comment séduire Israël, le peuple de Dieu. Dieu l'arrêtera, vous connaissez l'histoire, avec un âne, une ânesse, et plus tard le fera mourir par l'épée du peuple, quand le peuple d'Israël sera en déroute avec les Madianites. Il sera détourné. Balaam a fait commerce. La voie de Balaam consiste à faire commerce de ses dons et de son ministère. Moi, je sais, donc tu me payes. Je vois ce que Dieu voit, donc tu me payes. Amasser de l'argent. Il sert le spirituel pour acquérir du matériel. Et la doctrine de Balaam sera reprise en Apocalypse 2,14 dans l'église de Pergame, et qui dit en substance, vous pouvez faire fi de votre état de sainteté et échapper aux conséquences négatives. Le Seigneur est bon. Vous êtes le peuple élu. L'égarement est aussi une rébellion contre Dieu et sa parole. Et son comportement s'était changé. La grâce de Dieu en débauche et en dissolution. Selon le texte de Jude, Dieu jugera les imposteurs. Et comme Balaam, il sera arrêté, il sera jugé comme faux prophète. Troisième exemple, Corée dans Nombre 16. Corée et ses compagnons se sont révoltés contre Moïse et Aaron quand ils étaient dans le désert. Il était pourtant un fils de Lévi. Il était de la tribu choisie par Dieu pour servir au tabernacle. Et malgré cela, ils ne supportaient pas l'autorité. Ils mirent Dieu au défi de faire quoi que ce soit au sujet de leur révolte. En parlant contre Moïse, ils critiquaient l'autorité du Seigneur. C'est quand même Moïse qui a été choisi pour sortir le peuple. Et ils furent engloutis dans une crevasse. Et avec leurs biens et leur famille, ils périrent. Ils se sont révoltés contre l'autorité. Pour nous, aujourd'hui, ça peut quand même être un avertissement de se méfier parfois de nos paroles vis-à-vis des autorités établies par Dieu. Je me mets en premier, parce que de temps en temps, j'ai bien envie de râler sur les autorités. Dieu est au-dessus de nos autorités. Un petit résumé de nos trois exemples, et ce petit résumé, je le tirerai d'un livre qui s'appelle « Soyez vigilants ». Et je vous lis. Caïn s'était rebellé contre l'autorité de Dieu quant au salut, car il a refusé d'apporter un sacrifice de sang tel que Dieu l'avait ordonné. Balaam, lui, s'est rebellé contre l'autorité de Dieu quant à la sainteté, car il a prostitué ses dons pour de l'argent et voulait inciter Israël à se mélanger avec les autres nations. Corée s'est rebellé contre l'autorité de Dieu quant à l'obéissance, en niant que Moïse était le serviteur choisi par Dieu et en tentant d'usurper son autorité. Il est intéressant de noter dans le verset 11 les verbes utilisés par Jude, les apostats ou les impies ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans l'égarement, l'erreur de Balaam, et ils se sont perdus. D'autres traductions disent ils ont péri par la révolte de Corée. Combien il est tragique de rejeter l'autorité. Fin de citation. Et quand on voit le début du verset 11, malheur à eux. Malheur à eux, ceux qui suivent cette voie. Et le verset suivant, 11-12, nous montre encore toute une série d'exemples que je ne vais pas décrire parce qu'il y en a 6, des images vivantes de faux maîtres, de fausses personnes, de chrétiens de nom, qui sont un véritable danger pour l'Église, si on n'y prend pas garde. Bien sûr, il y a, et il y aura jugement de Dieu. On dit non, Dieu il est bon, il n'y aura pas de jugement. Mais en attendant, nous devons être vigilants et prudents, nous référant sans cesse à la parole du Seigneur. Nous avons des écrits. Tout est là. Alors pourquoi essayer d'inventer ? La parole est inspirée par le Saint-Esprit. Nous pouvons être assurés que le Saint-Esprit peut nous remplir et nous guider. Et pour conclure, j'aimerais reprendre ce que j'ai déjà dit et que Jude s'adresse à des gens, à des personnes qui savent quoi, qui savent de quoi ils parlent. Vous avez déjà appris. Je vous ai déjà dit. Trois fois que je dois répéter. Non. Ils répètent ce qu'ils savent déjà. Et si vous lisez 2 Pierre 2, 17-19. 17. Ces gens sont comme des sources qui ne donnent plus d'eau, comme des nuages chassés par la tempête. Une place leur est réservée dans la nuit la plus sombre. Ils font des discours à la fois enflés de vide et de sens. Et ils se servent de leurs désirs les plus honteux pour prendre au piège ceux qui viennent à peine d'échapper à l'influence de personnes qui vivent dans l'erreur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves d'habitudes destructrices car chacun est esclave de ce qui le domine. J'ai bien aimé cette dernière phrase. Chacun est esclave de ce qui le domine. Version seconde dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et Darby, car on est esclave de celui par qui on a été vaincu. On est esclave de ce qu'on pense, de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qui nous a pris possession de nous. Je me pose la question, de quoi suis-je esclave? Je la pose à moi. Hein. Esclave de Jésus-Christ, ayant la connaissance du seul vrai Dieu, amour, oui, et justice. Et justice. Ne nous laissons pas berner par n'importe qui annonce la liberté sans sacrifice de Jésus à la croix. Rappelons-nous que nous sommes esclaves de ce qui aura vaincu de nous. Jésus-Christ, est-ce qu'il a vaincu ma vie? Je suis son esclave. Et j'étais vaincu et terrassé par Dieu, et terrassé et repris par sa parole. Qu'il soit vraiment notre guide et notre maître. Amen. Père éternel, ce partage peut être agressif, mais peut-être un jugement. Mais c'est ta parole. Seigneur, que nous puissions nous rendre compte que nous avons affaire à un Dieu amour, mais un Dieu juste. Oh Seigneur, que nous puissions être des justes devant toi, parce que justifiés par toi, par le sacrifice de ton Fils et par l'aide de ton Saint-Esprit. Amen.